DevOps,
Ah,
c'est
pas
tout à rien en fait.
forcément,
Ça
tu vois.
regroupe
Tout
tellement de choses
dépend en
que.
fait que tu as envie de, je pense, de t'orienter. Si t'as envie, si lui et lui qui c'est ton dada, par exemple, tu vas plus t'orienter sur l'apprentissage de technologie front-end. Et après, tu vas essayer de trouver un job dans ce domaine-là. Et tu pourrais très bien, je ne le conseille pas, hein, mais ne jamais avoir touché du back-end et trouver un job en front et devenir expert front-end et t'en sortir très bien. Je pense vraiment pas qu'il y a besoin d'aller de faire du context switching constamment. Pour moi,
Ça, c'est
vraiment,
quand,
si
ouais.
tu deviens bon dans un. Hein?
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, non, mais vas-y, vas-y.
Je disais, ça, c'est. Oui, ça, quand tu es dev, je peux le comprendre. Quand tu te spécialises dev front-end, ouais. Ça, ouais, te spécialiser dans un framework ou d'avoir touché un petit peu aux autres, mais pas trop, ça passe. Mais
Mais
quand
même
tu dois un
dev
peu
backend,
chapeauter des
c'est
projets.
pareil.
Ah oui, mais dev back-end, ouais. Mais
Bon,
tout,
pour
en fait, tous
moi.
les postes de dev sont comme ça. Hein.
Parce qu'en gros, tu vas être dev backend, bah, comme tu disais, vous changez souvent, mais tu vois, mais tu vas rester focus pendant quand même une année, peut-être 2 ans, je sais pas, sur la même technologie. Tu vas t'entraîner là-dedans et peut-être que 2 ans, 3 ans plus tard, tu vas changer et tu vas redevenir focus sur une nouvelle technologie. Mais en même temps, dans l'instant T, tu vas pas faire 15 technos en même temps. Et c'est pour ça que pour moi, enfin, il faut pas aller voir à droite, à gauche tout le temps. Il faut vraiment devenir bon dans ce que tu fais. Parce qu'après, le problème, c'est que, en fait, t'es pas bon dans une techno, t'es nul partout. Enfin, t'es pas nul, mais
T'es
t'es
moyen partout.
moyen, on va dire, tu vois, partout, au lieu d'être bon dans un truc. Et le jour où tu voudras quitter la boîte où t'es et où t'es moyen partout, et on demande d'avoir un expert, alors bien évidemment, expert, ça veut tout et rien dire à la fois, on le sait tous, mais et tu rentres dans une boîte, des fois, imagine, t'es très très bon dans une technologie, t'arrives dans une boîte en tant que consultant, en tant qu'employé, en tant que freelance, j'en sais rien, et tu remarques que le code que tu vois, en fait, c'est un code nul. Pourquoi? Parce que c'est souvent des gens qui étaient moyens partout, qui ont dû écrire ce code, et c'est un gros problème. Qu'il y ait justement pas assez de gens très compétents dans un domaine parce qu'ils vont voir à droite à gauche tout le temps. Et je
Mais
pense
ouais,
que ça
mais
peut
du coup,
être
ça, je
bien
pense
au
que
début
c'est
et
vachement
mauvais à
conditionné
la
par le
fin de sa
poste.
carrière, quoi. Ben, je pense aussi. Mais
Ouais.
en gros, quand tu es dans un poste et que tu es bien dedans, alors si, bien évidemment, ta boîte décide de changer de tech, ben alors là, tu décides, comme tu disais, soit tu quittes la boîte, soit tu suis la boîte et tu changes de tech aussi. Mais au final, tu restes quand même dans une même tech avec une équipe. Pendant plusieurs années. Donc, c'est là où il faut essayer de. Il faut en avoir envie de s'améliorer dans cette tech. Et aussi ceux qui vont au travail, ils travaillent, ils rentrent chez eux, et puis ils veulent plus jamais entendre parler de développement jusqu'au lendemain matin. Ça arrive. Et c'est triste pour eux en soi parce que justement, quand ils ont des changements comme ça, où ils doivent changer soit de carrière complètement, soit ils doivent changer de langage, c'est compliqué pour eux, je pense.
Après, c'est alors pour rebondir sur ce que tu dis, Romain, enfin, ça m'arrive parfois de revoir des CV de personnes qui postulent. Quand je vois que la personne va avoir 22, 23, 24 ans et que dessus je vais avoir et du bac, plusieurs fronts, etc., je sais pertinemment que la personne ne pourra pas être experte ou même confirmée sur la technologie qu'elle met sur son CV. Ensuite de ça, pour rebondir sur la deuxième, donc du coup, ça diminue les chances d'être recruté, c'est sûr. Et enfin, voilà. Donc effectivement, il vaut mieux se spécialiser sur quelque chose. Et si on fait des changements, peut-être faire des changements dans le langage une fois tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Et puis pour la deuxième partie où tu dis, la personne qui rentre chez elle et qui oublie complètement le développement et qui veut pas en entendre parler jusqu'au demain, c'est triste pour elle, mais il y a des gens qui peuvent pas forcément se permettre de passer du temps le soir à apprendre de nouvelles choses parce qu'ils ont une vie C'est
de
plus une
famille,
question
parce
d'envie,
qu'ils ont
là,
une.
je disais ça, je pense.
Oui,
C'est en
alors
fait.
je pensais pas en disant ça, je te coupe juste, je pensais pas dans le mode elle peut pas ou elle peut, c'est plutôt vraiment. C'est pas son dada, quoi. Genre, elle se
Ah.
force à aller travailler tous les jours. Je parlais plus dans ce sens-là, en fait, que tu as des enfants et que tu peux pas. Ça, c'est différent pour moi, tu vois. Mais si t'as pas l'envie, si ça te fait chier d'aller travailler le matin et tout, c'est là, dans ce sens-là, quand tu fais des changements de techno, ça va te faire vraiment chier parce que tu dois apprendre, en fait. Et je parlais plus dans ce sens-là.
Mais après, il y a un truc aussi qu'on nous dit tout le temps pendant nos études et qui est très vrai, c'est qu'être un informaticien, c'est être curieux aussi. Et je pense que pour des gens qui sont dans cette situation de même plus avoir envie de changer, de découvrir, je pense sincèrement qu'ils devraient, je pense, changer de boîte ou trouver quelque chose qui leur plaît un peu plus. Parce que là, ouais,
C'est très vicieux comme situation, c'est un engrenage hein, de ne plus avoir bossé, d'y aller à reculons et c'est perdre ce goût pour le développement alors qu'à la base c'est quelque chose qui demande d'être très curieux et de découvrir et d'avoir envie de découvrir. Ça, de plus avoir la volonté, pour moi, ouais, c'est qu'il y a un problème dans ce que tu fais au quotidien.
Après,
Ça
juste
mène.
pour rejoindre sur le sujet de changer, ouais, on dit effectivement qu'il faut essayer de découvrir de nouvelles choses, mais il ne faut pas non plus effectivement passer son temps à passer sur de nouvelles choses et à changer de
Oui, non,
langage
non,
tous les
non.
3 jours. Parce que moi, si je prends mon cas, c'est un truc que je fais un petit peu, mais je le fais parce que ça fait partie aussi des besoins pour les tutoriels et c'est mon but en fait de faire de la veille au maximum pour tester plein de technologies. Mais quand je dois travailler pour un projet client, là, il faut se fixer sur une technologie. Parce que si vous passez votre temps à passer de l'une à l'autre, effectivement, si vous faites une semaine du Symfony, l'autre semaine du Laravel, il n'y a aucun automatisme qui va rentrer. Vous allez avoir du mal à justement faire du context switching et à repasser d'une techno. Et là, effectivement, les inconvénients qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'on ne devient pas expert, ils sont clairement flagrants. Mais une fois qu'on peut toujours passer un peu de temps pour découvrir une autre techno pour un peu en avoir un aperçu. Donc si on fait du React, par exemple, on peut découvrir Angular rapidement pour voir de quoi il en retourne. Au moins, on sait de quoi il s'agit. Mais après, ben, le reste du temps, on va vraiment travailler sur une techno qu'on va mieux maîtriser, quoi. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de se dire, je veux être le développeur qui connaît toutes les technos du monde. Parce que c'est,
C'est
d'expérience, je peux vous
impossible.
dire, c'est impossible et vous oubliez, on oublie un rythme assez rapide, quoi.
Ouais. Ah bah en vrai, ce qui peut être une bonne chose, c'est moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre d'autres langages, mais qui a quand même envie de s'intéresser, c'est de regarder des langages un peu éloignés de ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand tu es développeur React, il y a des gros avantages à découvrir Angular, Vue ou Swift. Mais ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'aller regarder des langages avec d'autres paradigmes, vraiment des paradigmes complètement différents ou des patterns complètement différents. Parce que je trouve qu'on gagne énormément par exemple, tout à l'heure, je parlais de programmation fonctionnelle.
C'est compliqué, ça, de passer de
Ouais,
passer de
mais
l'APO au fonctionnel, c'est
je te
très.
rejoins sur ça. Moi, c'est grâce à Elixir que j'ai été plus à l'aise avec le map, Reduce
Ah oui, mais ça.
et Filter,
C'est
par
pareil,
exemple.
c'est ce genre de fonction. Après, c'est surtout sur des devs très juniors que j'ai vu ça. Toutes ces fonctions-là, en fait, c'est oui, ça vient du paradigme fonctionnel, qui prennent des prédicats en entrée, c'est des trucs qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est ouais, aller dans des langages fonctionnels pour maîtriser ça, en vrai, tu ne seras que plus à l'aise dans ton langage après.
Après, on le retrouve aussi, on retrouve un peu cette même manière de grandir sur les frameworks. Par exemple, React a commencé avec des classes. Puis j'imagine que dans l'équipe de React, il y a deux, trois mecs qui ont dû découvrir le fonctionnel au milieu et qui se sont dit, tiens, en fait, on va essayer de changer complètement d'approche et d'avoir une approche plus fonctionnelle au niveau de la manière. Même dans un langage, bon, le JS c'est un peu particulier parce qu'il est très flexible. Ça va être, on va dire, plus compliqué de faire du fonctionnel en
Tout
PHP.
faire.
Ouais, c'est ça. Mais tu peux lui appliquer des paradigmes d'autres langages. Donc même la découverte d'autres langages peut améliorer vos compétences en tant que développeur globalement, quoi.
Bah, le concept dans paradigme ou dans design pattern, c'est de l'algorithmie derrière. Au final, on est censé pouvoir le produire dans n'importe quel langage, logiquement, plus ou moins simplement. C'est souvent ça la différence des langages. Une liste chaînée, normalement, tu peux la faire dans tous les langages qui existent. Par contre, comme je disais, suivant le langage que tu vas choisir, ce sera plus ou moins simple. Donc je pense que, comme tu dis, c'est très important de connaître certains design patterns les plus connus et aussi de connaître différents paradigmes. Mais après, ça t'empêche pas de les apprendre dans ton langage. C'est pas forcément un autre langage qui va t'apporter cet
Ouais,
apprentissage.
mais imaginons, je suis développeur PHP ou C Sharp. Ça va être compliqué de faire du fonctionnel en C Sharp. Pareil, ça va être très compliqué. Mais en vrai, par contre, aller regarder d'autres langages, même JS, parce que JS, ouais, comme tu disais, on peut le plier dans tous les sens, pour faire un petit peu de fonctionnel et s'abstraire du state, ça peut, à l'avenir, quand tu reviens sur C Sharp, te permettre déjà de mieux comprendre comment fonctionne ton state, de peut-être de moins l'utiliser à tort et à travers pour éviter les effets de bord quand tu viens modifier. Et je pense que ça peut t'améliorer, parce que les effets de bord, hein, quand tu as vraiment des gros objets, c'est une monstruosité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne détestent l'objet parce que c'est compliqué de gérer bien ton state. Ce qui fait que quand tu es développeur objet, aller voir le fonctionnel, ça te permet de mieux comprendre ton state, de mieux le gérer, d'avoir une vision d'ensemble plus. En fait, le but, c'est d'avoir, dans tout ce que je disais, le but, c'est d'avoir une vision d'ensemble globale, quoi, de comment ça fonctionne, comment je pourrais faire, quelles sont les alternatives, etc.
Au passage, il y a Kearney qui nous a rejoint. Salut à toi.
Ouais, salut.
Hello.
Qui a fait
Moi, je.
le grand écart PHP Java, si j'ai bien compris.
Ouais, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis architecte dans une startup à Rennes qui fait une solution de marketplace clé en main pour les entreprises, quoi.
Ok.
Et en fait, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la programmation fonctionnelle et par rapport à l'APO, etc. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant justement, ouais, d'aller voir des, par exemple, moi qui fais du Java, d'aller faire un petit tour par du JavaScript ou des langages un peu plus fonctionnels comme ça. D'autant que j'ai noté une tendance ces dernières années dans les langages, c'est que les langages qui étaient plutôt fonctionnels se dirigent de plus en plus vers aussi l'incorporation de types. Par exemple, en JavaScript, on a les classes qui sont arrivées, etc. Et même en PHP, on a le. Bon, là, pour le coup, c'est pas très fonctionnel, mais en PHP, on a de plus en plus de types. Et côté Java, au contraire, c'est dans l'autre sens, c'est un langage très typé. Et plus ça va, plus on a de choses du fonctionnel qui arrivent, comme les streams, etc. Et je trouve que c'est vrai dans plusieurs langages, notamment en C# aussi, ou d'autres langages comme ça, en fait.
Et juste pour parler un peu de toi, ce que tu as vécu, tu avais dit que tu avais commencé sur PHP. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné basculer sur Java?
En fait, moi, je faisais du PHP à une époque où justement, il n'y avait pas forcément de type en PHP.
C'est tout le monde a le même problème, j'ai l'impression.
Et en fait, j'étais pas forcément le jeune développeur le plus rigoureux, on va dire, ou le plus, oui, le plus rigoureux. Et en fait, j'ai voulu aller vers Java, bah déjà par rapport à ce que vous avez abordé tout à l'heure, le marché, en fait. Simplement, il y avait beaucoup plus d'offres d'emploi pour des développeurs Java que pour des développeurs PHP
Juste pour
dans
préciser,
le bassin.
c'est pour le web, hein?
Ouais, je fais du web, ouais,
Oui,
ça.
c'est juste pour être sûr.
Je fais du web.
Ah, tu fais du
Et
J2E?
pardon?
Tu fais du J2E?
Ouais, bah du Spring, quoi.
Mon Dieu.
Et mon but, c'était surtout d'essayer de gagner en professionnalisme, donc aussi bien au niveau de bah, ma connaissance de l'orienté objet, etc. Et puis d'aller vers des frameworks plus directifs. C'est pour ça qu'en PHP, j'utilisais plus Symfony que Laravel, par exemple. Ou j'avais même essayé Django en Python. En fait, pour moi, c'est un peu ces trois frameworks-là se ressemblent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous les avez essayés, mais que ce soit Django, Symfony, à une certaine époque surtout, et Spring, c'est des frameworks qui ont beaucoup, beaucoup de ressemblances
Moi, j'ai
dans
pas testé
ce qu'ils ont
Spring,
de.
mais les autres, enfin, c'est beaucoup basé sur la configuration, c'est ça?
Ouais, et puis c'est très basé sur les principes solides, en fait.
Ok.
Et du coup.
Je vais vous laisser là. Merci pour la discussion.
Pas de problème.
Ouais, salut.
Soirée à vous.
Merci, Kevin.
Et du coup, je trouvais ça intéressant d'aller voilà, vers ce milieu-là qui me paraissait, je sais pas, plus mature, en fait, à l'époque.
Ok, et cet apprentissage du Java, tu l'as fait tout seul ou tu l'as fait au moment où tu as rejoint l'entreprise, on t'a aidé ou...
Et ben, en fait, il y a eu un peu des deux. J'ai commencé à m'y intéresser tout seul, parce que je fais partie de ceux qui sont passionnés par le domaine. Donc, je code beaucoup chez moi, et pourtant, aujourd'hui, je le fais encore, et pourtant, j'ai des enfants. Mais j'essaie de rester, comme tu disais, Jonathan, intéressé, c'est-à-dire, ça m'arrive de découvrir une nouvelle techno, de passer quelques heures à regarder comment ça marche, sans forcément m'y investir totalement, juste pour voilà, rester un peu dans le coup, voir ce qui se fait. Puis ça donne des nouvelles idées parfois pour résoudre certaines situations. Voilà. Et donc je m'y suis intéressé comme ça. Et puis mon entreprise, en fait, à l'époque, m'a laissé le choix, m'a demandé ce que je voulais faire.
Ça, c'est
Et
cool, ça.
ouais, c'était cool. Et en fait, à l'époque, je travaillais sur des projets en PHP et je leur ai dit que j'aimerais bien faire une transition vers Java. Donc ils m'ont inclus à des projets Java. Il y avait un projet qui démarrait à ce moment-là en Java.
Donc ta boîte faisait les deux, c'est ça? En fait, avec des projets, enfin ta boîte gérait plusieurs types de projets avec des projets PHP
Alors,
et des
j'ai eu
projets.
une période, ouais, voilà. En fait, j'étais dans une grande ESN à Rennes, dans une boîte où on était 180 développeurs.
Ouais, ça fait beaucoup.
Et il y avait 2000 développeurs en France dans cette boîte. Et en fait, pendant une période, j'ai fait du PHP et du Java. Et après, j'ai rejoint un projet où il y avait du back et du front, et du Java et de l'Angular. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis monté en compétence avec l'aide des autres, en apprenant au contact des autres. Et puis, ce qui était pas mal, c'est que dans cette entreprise-là, il y avait toute une. Comment dire, enfin, il y avait des étapes de validation de code qui passaient par l'intégration continue, la relecture de code, etc. Et donc, en fait,
Ouais,
ce qui était bien, c'est que du coup, quand tu commitais, ton code était relu par un développeur plus chevronné. Et toi, de l'autre côté, tu relisais le code d'un développeur plus chevronné pour valider sa CPR. Et donc, du coup, dans les deux sens, tu apprenais des choses, quoi.
c'est ce qu'on avait évoqué dans les discussions précédentes sur le travail en équipe, justement, le système de code review qui est vraiment pratique. Moi, je le vois
Ouais.
dans certaines boîtes, ça m'arrive, moi, bon, je suis en freelance, mais de servir de référent technique en fait souvent c'est sur React, où là pour faire monter l'équipe en compétence ils font appel à des personnes qui vont justement aider à former, et ça sert quand même bien de catalyseur pour pouvoir avancer et apprendre plus vite une techno quoi.
Ouais, puis au-delà de ça, je trouve que ça permet aussi d'harmoniser, parce que même sur un même langage, une même techno, on n'a pas tous exactement les mêmes pratiques. Et ça permet aussi d'harmoniser ça. Ça peut être la manière de nommer les variables, la manière d'organiser le code en dossier. Dans tous les cas, je trouve que ça tend vers un code beaucoup plus homogène, en fait,
Oui, bah, de toute
et
façon,
de
ouais,
l'harmoniser local, quoi.
quand on travaille en équipe, le but c'est que toute l'équipe ait le même niveau, quoi. S'il y en a un qui turbine et pas les autres, ça, c'est pas.
Ouais, que tout le monde
Après,
puisse produire et
c'est.
reprendre le code des autres, en fait, quand il y en a un qui part en vacances, les autres peuvent reprendre. Enfin, voilà, il y a aussi ça, quoi, qui est important.
Dans la réalité, c'est pas toujours vrai non plus. On peut pas être tous au même niveau dans une équipe.
Non, mais à peu près, quoi.
Ouais, ça c'est vrai. Bah, je vois, surtout bah, dans le milieu où je suis. Dans mon équipe, on est que des alternants, donc on travaille sous forme de feature team. Mais je vois dans les autres feature teams, c'est il y a des disparités de niveau qui sont quand même assez folles. Mais c'est pas grave en soi. Mais je veux dire, le fait de vouloir mettre tout le monde au même niveau, c'est une très bonne chose. Mais faut avoir conscience aussi que c'est pas toujours possible, quoi.
Oui, mais
C'est
faut pas hésiter, si les entreprises le peuvent, à. Ça sert à rien de mettre un dev tout seul sur une nouvelle techno qu'il connaît pas, quoi. Il va pas être
Ah
efficace et
oui,
tout.
non, bah
Et
oui.
c'est là où ça peut être intéressant
Pas de le labeler avec le
Oui, ou
pair
le truc en
programming, hein.
débutant, c'est juste un POC ou un truc en interne et c'est juste pour que tu montes en compétence. Parce que moi, j'ai eu ça justement sur Spring, juste avant de commencer le projet. Il m'avait mis un mois ou deux en me disant, bah, je sais plus, je devais faire une appli qui devait aller lire des tickets dans Jira et les afficher, faire des stats ou je sais plus quoi. Et le but, enfin, il n'y avait aucun intérêt vraiment pour eux, c'était juste, à part le fait que j'allais monter en compétence. Un peu par moi-même, lire des tutos et tout. En plus, pour le coup, Spring, l'écosystème est génial, quoi. Il y a une belle communauté, il y a beaucoup de docs, beaucoup de tutos et tout. Donc, c'est pas compliqué de monter tout seul en compétences dessus. Et le but, c'était que j'arrive et que je sois pas non plus totalement newbie, quoi. C'est-à-dire que.
C'est bien que ta boîte ait fait ça, parce que je sais que c'est pas dans le cas dans toutes les boîtes. Hein.
Ouais.
Même moi, en tant qu'alternant, il y a des fois où je suis arrivé, on m'a dit, bon bah tu veux traiter tes premiers tickets ton premier jour, quoi.
Ouais, après,
Sur des technos que je
c'est un
maîtrisais pas
coût
non
aussi. Il
plus.
faut voir ça aussi, quoi, pour l'entreprise, c'est un coût aussi.
Ouais, bah oui, te mettre quelqu'un 2 mois à payer
Mais ouais.
sur un projet qui ne sert à rien, c'est assez
Mais
compliqué.
j'étais alternant à l'époque, donc c'est vrai que j'étais pas payé bien cher.
Ouais, puis ça
Du
leur coûte pas grand-chose.
coup. Les
Ils
fameux
ont beaucoup
stagiaires
d'aide.
gratuits.
Ouais. Ouais, non, mais par contre, l'alternance, je m'écarte complètement du sujet, tu m'excuseras, Graphicart, mais juste par contre, s'il y a vraiment des jeunes devs qui veulent se lancer dans ceux qui nous écoutent là, l'alternance, c'est vraiment pour moi le mieux. Et j'ai appris vraiment 10 fois plus dans plein de langages, dans plein de techno, que forcément de code. De patterns, de choses comme ça, en alternance, c'est très, très, très enrichissant.
Bah, plus
Et ça,
vite.
en plus, on a cette, excuse-moi, je finis très rapidement,
Vas-y, vas-y, vas-y.
on a cette possibilité de ne pas avoir de pression. Là, par exemple, quand toi, tu es resté 2 mois sur une appli qui servait à rien, et ben ça, c'est des choses qu'en alternance, on peut faire. Et si vous avez l'occasion d'en faire, souvent, vous aurez des projets comme ça pour vous mettre en jambes, sans pression, sans deadline, sans. Après, ça dépend beaucoup de l'entreprise, mais sans ce besoin de rentabilité. Et pour se mettre en jambes dans les langages ou des choses comme ça peut être une très bonne occasion.
Ça rejoint ce que disait Romain au tout début, dans le sens où bah, souvent les gens ont tendance à apprendre. Si tu apprends en autodidacte, tu vas apprendre avec des tutos, tu vas savoir refaire des trucs dans les tutos, mais avec la pratique, tu apprends beaucoup mieux, quoi. Une fois que tu
Ah
as la
oui,
théorie, il faut vraiment pratiquer, quoi, et c'est ça qui te fait monter en compétence. Hein.
complètement.
Ah,
C'est vrai
puis.
que quand tu fais tes études en initiale, t'as moins, je pense, l'envie le soir quand tu rentres chez toi de te faire une appli tout seul.
Ouais.
Même si tu as des projets de groupe, c'est pas tout à fait pareil que quand tu es en entreprise. Déjà, en entreprise, tu peux, t'as à portée de main des gens qui ont l'expérience qui peuvent te débloquer relativement vite.
Et
Et puis,
puis, contrairement à un
tu as le
projet
côté où, voilà,
d'étudiant, tout le monde veut bosser, quoi.
t'es sérieux, quoi, voilà.
En général, parce
Après,
que.
là, on part du principe qu'on est étudiant, du coup, et qu'on a justement du temps à côté, qu'on n'a pas des devoirs sociaux. Enfin, quand tu es étudiant, tu peux te permettre, là, vraiment, d'aller voir à droite, à gauche, histoire de trouver un chemin. Mais une fois que tu es dedans, ça devient tout de suite plus compliqué, quoi.
Ouais,
Ouais, je
après,
comprends.
faut aussi trouver. Moi, je sais que même pour les gens qui, dans mon entreprise, qui sont pas étudiants, je sais qu'on avait débloqué du budget pour que les gens puissent faire une demi-journée, voire un jour de veille par semaine. En fait, faut aussi se dire que l'entreprise a beaucoup d'importance là-dedans. Il y a des entreprises qui font le choix pour que leurs développeurs soient meilleurs et qu'ils soient plus efficaces de leur laisser du temps libre.
Je crois que c'est le choix de grosses boîtes, style. Je sais que c'est comme ça chez Spotify, où ils ont une journée par semaine où ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, il y a comme ça qu'ils ont déterré des choses, des nouvelles techno qu'ils ont mis à jour, qui sont restées un peu à la pointe. Et je crois que ce n'est pas les seuls à le faire. Je crois que chez Slack aussi, ils font ça. Et je
Et
pense que c'est une bonne pratique, ouais, d'avoir une demi-journée, une journée par semaine,
Ouais,
où
carrément.
tu travailles sur un projet qui est souvent, c'est des projets en interne et sur lesquels ils testent des technos qui sont, voilà, beaucoup plus fraîches. Et ça leur permet de, bah voilà, de si un jour il y a un truc qui vaut vraiment le coup pour eux, et bah, ça leur permet de migrer ou de, voilà,
Bon. Mais
d'espérer passer dans le coup,
le
quoi.
plus gros conseil que je pourrais donner à quelqu'un aussi, parce que là on parle de changer de langage de programmation, voilà, c'est un choix qui est assez dur, mais un truc qu'il faut aussi faire en fait quand tu es en entreprise, c'est profiter de la chance que tu as d'être avec des gens qui sont plus doués que toi, qui le seront peut-être toujours, puisque c'est des boss, voilà, on est pas le meilleur, moi je suis pas le meilleur et je m'en fous, mais je profite beaucoup des compétences des autres et je discute énormément avec mes collègues qui eux vont faire complètement différemment. Parce qu'on n'est pas obligé de se plonger dans. Si je suis développeur Angular, je ne suis pas obligé de me plonger dans React, forcément. C'est-à-dire, si ça se trouve, à côté de moi, dans mes connaissances, dans mes collègues, il y a quelqu'un qui connaît React, et qui connaît même un petit peu Angular, et qui pourra me dire, bah voilà, en React, moi, ce que j'apprécie, c'est ça, parce que Angular, je ne l'avais pas. Voilà, il y a peut-être des gens même qui ont fait le switch de Angular à React. C'est un des gros points qui est super important, c'est de vraiment se renseigner autour de soi et de parler à ses collègues sur ça. Parce que on dégage une base de connaissances qui est absolument phénoménale.
Ah c'est le gros avantage quand tu es en entreprise, c'est que, bon, sauf entreprise où tu te retrouves un peu tout seul, où tout le monde a les mêmes trucs, c'est que tu peux avoir. Souvent, quelqu'un qui connaît bien une techno ou qui connaît bien quelque chose va servir de catalyseur et va te faire gagner beaucoup plus rapidement en compétences et t'éviter toutes les problématiques tout de suite, alors que quand tu apprends
Une
tout
sorte de
seul.
mentor.
Exactement.
Ouais,
Et
et puis
du
même
coup.
la simple, enfin, pour rejoindre ce que vous dites, la simple pause café, des fois, enfin, elle te fait gagner un temps monstrueux. Parce que je sais que avec un collègue, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de mise en prod, de serveur et tout. Et moi, j'avais des galères pour gérer mes versions de Node, et il m'a parlé de NVM. Et moi, dans l'autre sens, il avait des galères, lui, pour gérer ses versions de Java, et je lui ai parlé de SDK Man. Et enfin, voilà, juste en 5 minutes autour d'un café, on a débloqué des situations et ça fait du bien, quoi.
Ouais, non, mais en vrai, la pause café, quand on vient dans mon entreprise, on pourrait croire que beaucoup de gens n'en branlent pas une. Mais au final, autour de la pause café, tu discutes tellement de choses et de problématiques en plus qui sont pas forcément que liées au code en lui-même. Parce que quand t'es dev, faut pas oublier que ton application, elle doit être livrée après. Et souvent, quand t'es en entreprise, c'est pas toi qui décides comment elle est livrée. Et de savoir, par exemple, de discuter avec le mec qui s'occupe du pipeline et de savoir les bourdes qu'ont fait les autres peut. Ah tiens, ouais, ah bah, je l'ai fait, j'allais la faire aussi, la bourde. Et c'est une super expérience d'avoir de profiter des erreurs des autres sans être méchant. On n'est pas là pour se moquer des autres, mais
Ouais, bah, si tu
c'est une
viens avec
super
ça,
expérience. Hein.
ouais, si tu viens avec cette attitude, c'est pas terrible déjà dans une
Ah ouais,
boîte.
non, non, non.
Mais
Et
moi, c'est vrai que j'ai eu les deux, ouais, t'as raison. Et c'est vrai que j'ai eu les deux dans mon parcours, parce que j'ai fait des très grosses boîtes, style SFR, Page Jaune et tout. Et des plus petites. Et dans les deux cas, en fait, juste le fait de discuter avec soit des gens qui font le même métier que toi, soit des gens qui sont en amont ou en aval, ou alors juste qui ont un métier, on va dire, qui est un peu parallèle, mais qui n'est pas tout à fait le même, style les chefs de projet, etc. Il y a toujours, en fait, dans la discussion, t'en sors toujours du
Ouais,
savoir, quoi.
du savoir. Et il y a un truc aussi qui est très important si jamais dans votre boîte, ça fait comme ça. Après, ça reste dans des boîtes assez jeunes, hein, je pense, enfin assez jeunes dans l'état d'esprit. Nous, vu qu'on fonctionne en feature team, on fait énormément de démos. On fonctionne qu'en agile, on fait énormément de démos. Si dans votre entreprise, il y a des gens qui fonctionnent en agile et qui font des démos, allez-y. Parce que des fois, on se retrouve face à des process, des solutions techniques ou des choses comme ça auxquelles on n'aurait pas pensé du tout. Et ils vous font plonger dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, dans comment ils font. Et en plus, c'est l'occasion après d'échanger avec eux sur les manières de faire. Sur, par exemple, imaginons qu'il présente un projet en React où il a fait un truc qui vous impressionne. Le mec, après, pourrait aller lui poser des questions. C'est pour lui demander bah, comment tu as fait ça? Moi, je galère avec ci, avec ça. C'est un peu comme aller regarder un streamer ou aller à une convention. En fait, il y a plein d'endroits où c'est propice à la question et à découvrir des choses en dehors de même, soit dans l'entreprise ou en dehors, quoi. Mais les démos, c'est une très bonne occasion. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des démos dans l'entreprise, mais.
Ouais, après, il y a
Si, moi
aussi.
j'ai eu cette page jaune en l'occurrence.
Ouais, bah, c'est un bon moyen. Ouais. Il faut vraiment s'intéresser, quoi. Si on doit retenir un truc, c'est. Être curieux, bah c'est intéressant quoi, c'est pas un truc qui part dans le vent quoi.
C'est
Ouais,
sûr.
puis on est plus dans. Enfin, il y a vraiment pas le cliché du gars. Enfin, le développeur, c'est pas le mec tout seul derrière son PC qui parle à personne, qui fait que coder 23 heures sur 24. Au contraire, c'est un milieu d'ingénieur. Et le fait de la discussion, l'échange, c'est ça aussi qui fait grandir. C'est pas en restant dans son coin qu'on progresse vite et bien, quoi.
Complètement. Pour le coup, moi je sais que j'ai, même en période de Covid, après c'est autre chose parce que moi j'ai eu l'occasion de changer d'entreprise vu que j'étais en alternance, mais même en période de Covid, j'ai jamais autant appris que dans ce fonctionnement-là, d'avoir des simples, avoir des collègues sympas, déjà ça vous change un métier, hein. C'est complètement fou. Mais le fait d'avoir des gens sympas autour de moi, d'avoir des démos, de pouvoir me dégager du temps, mon employeur m'autorise à me dégager du temps pour assister à une conférence, des choses comme ça, et ça nourrit la curiosité, on a envie d'en apprendre plus. Après, ce que je dis, c'est faut pas vous culpabiliser si jamais vous avez pas cette fibre-là de il y a des moments, moi, il y a eu des gros moments de creux où j'avais pas l'envie d'apprendre de nouvelles choses, où j'étais fatigué, où. J'avais envie juste d'avoir des automatismes parce que ce que je faisais me faisait chier ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment, ça reviendra et vous aurez, quand le terrain sera propice, vous aurez envie d'en savoir plus, d'avoir cette curiosité et justement de vous rapprocher. Le meilleur moyen, c'est de se rapprocher des gens et ça vous fera peut-être changer de langage ou changer de paradigme ou changer de plein de choses en fait.
Clairement. Et je me dis, bon là, on arrive presque vers la fin. Il y a Alex qui nous a rejoint. Tu voulais intervenir sur quelque chose de particulier ou?
Bonjour à tous. Moi, j'ai 21 ans et je suis auto-entrepreneur. Et tout à l'heure, vous parliez comme ça, tout ce qui était apprenti, etc. Et moi, j'ai eu deux stagiaires en peu de temps pour surtout être dans le truc de mentor et aussi un peu leur faire découvrir un peu le métier. Et est-ce que vous parliez tout à l'heure de comment dire les projets, etc. Trouver des petits projets Ouais, il faudra faire, moi, c'est ce que j'ai fait faire à mes stagiaires. Et ce qu'en plus, elles avaient, c'était deux parcours complètement différents. Une qui était étudiante en bac SEO, etc. Et une autre qui avait fait, je sais pas si vous connaissez tout ce qui est Doranco, les formations hyper rapides de développement web. Bon, bref, un peu compliqué. Et le truc, c'est que, donc, deux niveaux complètement rien à voir. Et c'est vrai que le fait de leur trouver des projets intéressants qu'ils peuvent mettre dans leur GitHub aussi pour plus tard pour les entreprises et tout. Et le fait aussi, moi, des fois, je leur montrais un peu comment je codais pour qu'ils voient bah, la différence entre comment c'est en pro et comment c'est, je veux dire, la différence entre ce qu'on leur apprend à